Jules Janin, l'aveugle. Je vous prie de prendre la lettre, le titre de mon article. Ce chapitre n'a rien de politique. Il n'a rien de commun avec ces longues allusions, en termes souvent trop couverts, aux affaires et aux hommes du moment. Non, ceci est la simple histoire d'un accident funeste arrivé à l'un de mes plus chers amis. Et comme, je ne sais pas pourquoi, cette histoire a pris quelques teintes un peu tristes et littéraires, ne fût-ce que pour charmer les ennuis de mon cher Jules et les miens propres, j'entrepris de vous la raconter. Jules est un homme d'esprit et de cœur. C'est un sceptique sans fanatisme et sans ostentation, simple et bon toutes les fois qu'il n'est pas en colère, facile à s'indigner, aimant beaucoup les vrais plaisirs, la table, le jeu de piquet à un prix modéré, la conversation avec les femmes, pourvu qu'elles ne fassent pas de romans ni de verres. Il ne déteste pas non plus le vin de Bourgogne quand il est vieux et le cigare quand il n'est pas de la régie. Du reste, bon et colère, licencié en droit, moqueur et s'inquiétant peu de ce qui s'exprime et s'imprime vers ou prose, livre ou journal. Ce jeune homme s'était fait une vie heureuse et en sa manière. Il ne s'était dévoué à la politique de personne. Il n'avait insulté aucune décadence. Il n'avait salué aucun avènement. Il méprisait autant le fanatisme que l'admiration. Et la foi lui paraissait un contresens dans les créatures raisonnables. Il n'avait de haine que pour ses ennemis et d'amitié que pour ses amis. Ce qui est fort rare, remarquez-le bien, dans cette pauvre espèce humaine qui se passionne à tort et à travers, sans que le plus souvent elle puisse savoir pourquoi. Ajoutez à cette égalité une absence totale d'ambition. En fait, d'autorité, il n'avait jamais rien désiré, pas même la présidence du Conseil des ministres. Et en fait, de distinction honorifique, il n'avait pas même songé à demander la croix d'honneur. Il était fait ainsi, indifférent à tout ce que le vulgaire appelle de ses voeux. L'amour même ne comptait au dernier rang pour lui de ses élus. Il était un enrôlé qui allait au pas sans se presser, et toujours sûr d'arriver trop tôt, sans compter qu'il avait la plus sublime indifférence pour les projets objets extérieurs. Le monde allant et venant le touchait peu. Les célébrités les plus fortes, celles de la veille, le touchaient peu. Il n'eut pas détourné la tête pour voir un pape saint-simonien. Et on lui dit, pendant qu'il était à dîner, « Oh, voilà une révolution qui passe !» qu'avant le dessert, il ne se fût pas levé à la fenêtre pour la voir passer. Souvent, je le grondais de tant d'indifférence. « Malheureux, lui disais-je, Tu ne sauras donc jamais un mot de l'histoire contemporaine. Tu n'as vu ni M. Perrier, ni le général Lafayette, ni le général, ni le père Enfantin, ni Béranger. Tu n'as pas été admirer le monument en bois des héros de Juillet et l'éléphant en plâtre de la Bastille. Tous nos grands hommes passeront, tous nos monuments crouleront, et tu ne pourras pas dire à tes petits-enfants, je les ai vus. Malheureux et insensible ami, mais à quoi donc te sert d'avoir des yeux? Ainsi je lui parlais souvent, et le railleur, bonhomme, se moquait de mon enthousiasme. Il traitait toute l'histoire contemporaine comme de l'histoire ancienne. Il attendait, disait-il, qu'on l'eût écrite pour l'apprendre et pour y croire. Et puis, disait-il encore, n'avons-nous pas l'iconographie des contemporains? N'avons-nous pas le supplément à la biographie Michaud? Et la lithographie, donc, qui reproduit si bien tous les monuments et toutes les figures en plâtre? Est-ce donc la peine de nous déranger? Et il allait toujours ainsi, sans rien regarder. Ou bien il regardait quelque chose. S'il regardait, ce n'était pas l'histoire. Ce n'était pas le fond solennel de cette riche et bizarre étoffe qu'on appelle le 19e siècle. Ce fond ventre de bleu-biche et de vautour qui change éternellement et qui pourtant est toujours le même, à quelques nuances près. Non, ce qu'il regardait, mon ami, c'était les franges de ce vaste tapis, c'était l'innocente bordure de cette monotone histoire, des chevaux fringants, des chiens sveltes et quelquefois des jeunes filles sveltes aussi. Rieuse, boudeuse, aimable meute qu'il avait mis si souvent aux abois. Ainsi, s'inquiétant peu d'histoire et ne sachant rien du siècle où il était, le malheureux jeune homme s'arrêtait des mois entiers à avoir folâtré le monde d'accessoires, ce monde de superfluité, pendant que le monde grave et noblement et solennel, le monde de Monsieur Percy et de Monsieur Dagout, allait toujours son train. Moi, qu'affligeais tant d'insouciance, je répétais toujours, mais tu n'y vois pas, tu es aveugle, mon ami. Vois dans tout ce que tu as laissé passer sans le voir. L'empereur d'abord, ce géant sous lequel est né, tu ne l'as pas vu avant son départ pour sa tombe. Tu pouvais le voir. La première et la seconde restauration suivies, et non pas précédées, des Cosaques, tu pouvais les voir, tu ne les as pas vus. Louis XVIII, ce roi dans son char de triomphe et dans sa bière, mécréant et si habile, roi et cadavre, tu pouvais le voir, tu pouvais voir la bruyante calèche du sacre de Reims, donnant la main au vaisseau de Cherbourg, tu pouvais voir enfin le programme de l'hôtel de ville que si peu de gens ont vu. Tu n'as pas vu tout cela. Ainsi, tu n'as rien vu de tout cela, pas même le programme. Et je lui répétais encore ma malheureuse phrase. Mais à quoi donc te servent tes yeux, cher Jules? Avoir des yeux pour voir des grisettes et des caricatures en plein vent. Avoir des yeux pour ne rien voir, mais à quoi te sert d'avoir des yeux? Tant et tant, lui répétais-je cette phrase maudite, qu'elle me porta malheur, et à lui aussi. Mon pauvre ami, un matin, que j'allais le voir pour lui montrer l'abbé Châtel, je trouvais mon cher Jules enfoncé dans un fauteuil et dans l'attitude d'un profond recueillement. Je ne l'ai jamais vu penser comme cela. Je pris un fauteuil à côté du sien et j'attendis qu'il eût poursuivi son idée dans ses derniers retranchements. Et après un quart d'heure de silence, « Mais pourquoi, me dit-il, ne m'as-tu pas encore dit ta question? As-tu des yeux ?»« Bien, j'attendais, lui dis-je, que tu m'eusses regardé et dit bonjour. »« Bonjour, me dit-il. » Mais je t'en prie, demande-moi, as-tu des yeux? Et moi, sans me déconcerter, je lui dis, as-tu des yeux, Jules? Il me répondit, je ne sais pas si j'ai des yeux. Et en effet, il était devenu presque aveugle. Une seule nuit avait obscurci cet œil vif et perçant. Un épais nuage s'était étendu sur ce regard qui embrassait tant d'espace. Et soit que ce regard, peu exercé et perdu tout à fait sa vigueur, soit que mon maudit « as-tu des yeux ?» et porter malheur au pauvre Jules, c'était à peine s'il voyait assez pour lire un livre de messe en gros caractères à l'usage de notre bonne vieille tante de 90 ans. Diable, lui dis-je, la question prend une telle gravité que je ne te la ferai plus qu'en tremblant. À présent. Mais, dit Jules, à présent aussi ta question a pris un sens tellement restreint qu'il faut au contraire te hâter de me la faire. Car entends-tu bien, avant de n'y plus voir, je veux tout voir, tout voir, entends-tu bien? Voir tout ce que je n'ai pas vu quand j'y voyais, avant de ne plus rien voir. Je gardais le silence, et il reprit la parole à l'instant d'après. « Mais tu me mèneras, entends-tu, tu me mèneras aux endroits les plus curieux de Paris. » Que je puisse dire « Oh, j'ai vu Paris, mes enfants, tout aveugle que je suis. » Moi, voulant flatter son mal, je lui dis « As-tu vu les catacombes ?»« Oh, dit-il, je n'ai pas besoin de les voir, les catacombes. Je me figure de grandes murailles, d'ossements, des inscriptions latines, ou à peu près, et des vers français sans orthographe, et des passages tirés des psaumes, des noms inconnus gravés sur la pierre. Non, 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 mon ami, j'en ai assez vu, des catacombes comme cela. Et la Chambre des députés, mon ami? La Chambre des députés, me dit-il. Mais songe donc que c'est une chambre, une méchante baraque, eh bien, mal, en bois mal peint. Je ne puis pas me déranger pour si peu, conviens-en. Elle passe encore, si on me laissait pénétrer dans le pavillon à côté. Alors, veux-tu monter au clocher du Panthéon ou descendre dans les souterrains? Oh, j'attendrai que le sort du Panthéon soit décidé et qu'on sache s'il appartient pour tout de bon à Sainte-Geneviève ou à Voltaire. En attendant, tous les clochers se ressemblent. Je suis monté il y a 15 ans au clocher de Cagny, qui a 175 marches de hauteur. Et si nous allions, répondis-je, à l'Institut, un jour de séance, tu verrais les plus grands hommes que tu n'en as jamais vu imaginer. Oh, de grands hommes d'Institut. Un crâne chevelu, une perruque pelée, un habit d'héros brodé, un jabot sale. Oh, d'ailleurs, j'ai vu les deux extrêmes, en fait, de grands hommes. J'ai salué un jour Monsieur Cuvier. J'ai donné le bras à Monsieur Cousin. Cela me suffit, j'imagine, pour juger des plus grands et des plus petits. Mais songe donc, repris-je, que demain, peut-être, ce monde si riche t'échappe. Profite donc de la clarté qui te reste. Hâte-toi, si tu veux voir encore un homme d'État en grand costume. Un maréchal en uniforme, une duchesse en robe de gaze, un empereur, un roi, que sais-je. Les rois deviennent rares dans tous les cas. Il faut flâner, Jules, il faut te hâter, car demain, ton laquais lui-même n'aura plus peut-être de livrée pour toi. « Que m'importe la livrée, me dit-il. Or ou galon, gaz ou bure, tout cela n'est vraiment qu'une sorte de vaine décoration que mon œil ne regrette pas. Au demeurant, et en réfléchissant bien, j'ai vu Paris autant qu'on peut le voir. J'ai vu la colonne, voilà pour la gloire. J'ai vu l'Hôtel-Dieu, voilà pour l'humanité. J'ai vu Saint-Sulpice, désert, voilà pour nos croyances. J'ai vu les Tuileries, sans vitres aux fenêtres. Voilà pourquoi, pour la grave sécurité des rois. Et j'ai vu le palais royal, voilà pour les pièces divises du peuple. Cloître, croyance, Royauté, gloire, vice populaire, ai-je donc de su savoir? Mais en disant cela, il n'était pas triste, ou il n'était pas gai. Il était comme un gentilhomme solitaire, flâneur qui va faire un petit voyage personnel, qui ne veut pas trop surcharger sa monture et qui discute avec un ami pour savoir ce qu'il n'emportera pas dans sa valise. Mais je le savais quelque peu sensible à l'art. Au moins, lui dis-je, n'est-il pas quelque visage que tu regrettes dans nos théâtres, quelque comédien que tu veuilles voir avant de dire adieu à la lumière du lustre, soleil des mondes fardés? Il réfléchit un instant ou deux, puis il reprit. Bon, j'ai beau y penser, mon vieux Jules, je regrette la vue de personne dans le monde théâtral. Ce monde-là se divise en deux parties, le vieux et le jeune monde. Le vieux monde dramatique a été beau, j'en conviens. Mais à présent, sa peau se contracte, les cheveux lui tombent, les rides le sillonnent de toutes parts. Et veux-tu que, donc, je demande des yeux pour voir toutes ces horreurs, ces jeunes premiers d'un demi-siècle? Ces ingénus de 60 ans. Non, 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 non. Ce vieux monde-là n'est plus que moi. Le vieux monde du drame me faisait fermer les yeux quand j'y voyais. Quant au jeune monde, avoue mon ami qu'il est peu favorisé dans ses dons de la beauté. Quelle est la jeune fille de nos théâtres assez belle pour qu'on ne regrette pas la dent qui lui manque ou qu'une de ses hanches ne soit trop haute ou que sa main soit trop large, son pied trop long? Quel est le héros dramatique qui n'est à se reprocher quelque imperfection théâtrale? La beauté physique n'est plus de ce monde dans le monde des arts. Pour ce monde-là, pauvre, humilié, malheureux, qu'il soit vieux ou jeune, à quoi me serviraient mes yeux? Mais au moins, lui dis-je, pense à toi. Passe donc un jour, si tu es aveugle, tu sentiras dans ton âme le besoin d'aimer et de choisir une compagne et de la voir. Et comment pourras-tu la voir si tu ne la vois pas à l'avance? Et comment feras-tu regarder son visage si tu ne la vois pas? Allez, viens donc, mon Jules, viens au bal. Ce soir, tu verras la foule de jeunes filles sans époux que leur mère traîne après elle au bruit de l'orchestre de Colbeck et de Collinet, courant, espérant pour leur fille un mari qui ne vient pas. Allez, viens au bal ce soir, afin que tu puisses choisir et jeter ton mouchoir à la plus belle quand tu n'auras plus tes yeux. On ne me parle pas du bal, répondit-il vivement. Le bal est le plus horrible plaisir que je connaisse. Le bal est une prostitution anticipée, dont la fausse nudité est mille fois plus indécente que la véritable nudité. Ne me parle pas du bal ni des filles à marier au bal. Le bal est un théâtre pour elles. Au bal, elles s'étalent à plaisir et se montrent dans leur beau une heure pour être maussades le reste de leur vie. Elle ne me parle pas du bal, non. Quant à chercher une femme, je n'ai pas besoin de mes yeux pour la trouver. Quand je serai aveugle, je la verrai à sa main, à son pas léger, à sa voix surtout, à son visage qui rougirait sur mes lèvres, à son cœur s'il bat contre mon cœur, à son haleine, au parfum original de ses vêtements. Et à ces signes, je trouverai ma maîtresse. Je n'ai pas besoin de voir pour être encore le plus heureux des hommes. Et je dois être encore heureux. Puis il reprit sur un ton moins sévère. Si je deviens aveugle, mon ami, je te conseille de ne pas trop me plaindre. Allez bien voir. Il n'y a plus rien de beau dans ce vieux monde. Le monde est laid, vieux et monotone. Que m'importe la vue si j'ai la paix et le calme chez moi, la chaleur du soleil, la promenade du soir, les fleurs du printemps, les nuits de l'automne, les brises murmurantes au vent d'hiver. Plaisir d'aveugle, bonheur d'aveugle, c'est-tu rien de mieux? La vue de nos grands hommes et de nos grands monuments fait pitié. Lire nos poètes modernes, c'est dormir. Moi, quand je voudrais la poésie, je me répéterais 200 ou 300 vers que je sais par cœur. Moi, mon exil est fini dans ce monde mobile. Et quant à mes yeux, je suis sûr de rester le même. Quand tout change, si j'y vois moins, j'entendrai mieux. Et qu'est-ce que l'histoire du bruit, plus encore que du mouvement? À ces raisons, ne sachant que dire, j'allais chercher les dessins de Charlet, les gravures de Dupont, les croquis de Delaroche, de Descamps, et je montrais tout cela à l'aveugle. Tu as raison, dit-il. Oui, tout cela est l'art moderne. Descamps, Charlet, Ingres. Oh, j'ouzis quelques vers de Monsieur de Lamartine, une page de Chateaubriand et de Monsieur de Lamennais, et puis c'est tout. Donc, tu peux devenir aveugle, mon ami, et sans regret. Oui, fut-il, aveugle sans regret. Je sais vos visages amis. J'entendrai vos voix. Je vivrai avec vous. Je ne verrai plus le monde extérieur. Qu'importe au monde et à moi. Je sortis. Il me rappela. Cependant, reprit-il, il y a des choses que je veux voir encore avant d'être aveugle. Tout à fait. C'est une fantaisie qu'il faut me passer, mon ami. Mais sans nul doute, lui dis-je, et quelles sont ces deux choses? Eh bien d'abord, je veux voir le chien, le caniche qui doit guider mes pas quand je serai aveugle tout à fait. Puis, va me chercher les yeux d'émail. Je veux choisir les yeux qui remplaceront les miens. Avec des cheveux noirs comme les miens, depuis que j'existe, j'ai toujours désiré des yeux bleus de ciel. Le lendemain, je me levai de bonne heure, j'allai chez mon ami avec mon chien à la main et mes yeux bleus d'émail dans ma poche. Mais mon ami était sorti avec ses yeux noirs, plus clairvoyants que jamais, et je me trouvais dans sa chambre que le père de Louise, sa lectrice, qui me dit « Mais où donc votre ami l'aveugle a-t-il conduit ma fille si matin ?»